De la même manière, l'esprit de prophétie peut tomber sur une assemblée, amenant l'une ou l'autre personne à prophétiser ce qui ne leur était peut-être jamais arrivé auparavant et ne se reproduira plus par la suite. Mais comme il est bon d'affirmer avec la Bible que Romains 11, 29, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Quiconque reçoit le don de prophétie pourra en jouir jusqu'à la fin de ses jours s'il continue bien sûr d'écouter l'Esprit et d'exercer fidèlement ce charisme. Nous avons dit précédemment que, contrairement aux fruits de l'Esprit, les charismes sont de nature parfaite. Cependant, cela ne veut pas dire que les dons ne se développent pas avec l'expérience et l'approfondissement de la vie spirituelle. C'est à cause de cette loi de la croissance qu'elle y ouvrit des écoles pour la formation et le perfectionnement des prophètes. C'est dans la mesure où l'on grandit dans la sanctification, la consécration à Dieu, la connaissance des Écritures et la prière, que le don de prophétie s'enrichit, que le message apporté devient plus puissant, et que la révélation et les vérités exprimées sont plus profondes. Le ministère de prophète constitue le troisième degré de la prophétie. Les prophètes ont non seulement reçu ce don particulier, mais ils sont eux-mêmes un don pour l'Église, qui est le corps de Christ. Éphésiens 4, 8-11, c'est pourquoi il est dit étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Tandis que le don de prophétie est généralement destiné à l'assemblée locale, le ministère de prophète a un bien plus grand rayonnement. Il peut s'exercer dans le corps de Christ supralocal, il s'adresse à un ensemble d'églises. Avec l'apôtre, le prophète remplit une fonction essentielle dans les réunions de conseil régional ou national. Par conséquent, le prophète n'exercera pas seulement son ministère dans le domaine de l'édification, l'exhortation et la consolation, comme l'indique clairement 1 Corinthiens 14, 3 celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il pourra révéler la pensée de Dieu concernant les questions complexes de la direction de l'Église, ce qui est essentiel à la saine croissance et au développement d'un mouvement. La prédication d'événements futurs est aussi l'une des caractéristiques d'un ministère prophétique confirmé. Degré de perfection et contrôle de la prophétie. Comme nous l'avons déjà dit, nous devons considérer que le degré d'inspiration, la richesse des pensées, la maturité et la qualité d'un même don diffèrent grandement selon les individus. Nous reconnaissons qu'une inspiration parfaite ne se trouve que dans l'Écriture, comme nous le dit 2 Pierre 1, 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est pourquoi notre confession de foi, par le juste titre de la divine inspiration et l'autorité des saintes Écritures. On trouvera une inspiration déjà moins parfaite et jamais infaillible chez les prophètes de notre temps, selon les exemples donnés par Actes 11, 28, l'un d'eux, nommé Agabu, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Acte 13. De pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 21, 11 et 20 nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit voici ce que déclare le Saint-Esprit l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quant au don de prophétie, nous sommes appelés à juger et à éprouver les esprits. 1 Corinthiens 14, 29-32, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. 1 Thessaloniciens 5, 20-21, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ceci indiquant clairement que l'erreur peut s'y glisser. D'autre part, 1 Corinthiens 13, 9 révèle cette vérité, que prophétie est toujours imparfaite, elle doit donc être reçue avec pondération. Dans l'Ancien Testament, on consultait les prophètes pour qu'ils cherchent la face de Dieu et transmettent ensuite la solution divine des problèmes qui leur avaient été confiés. 1 Samuel 9, 9 autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. 2 Rois 20, 8-10 Échia avait dit à Esaïa « Quel signe connaîtrais-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ?» Et Esaïe dit « Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée l'ombre, avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Et Échia répondit « C'est peu de choses, que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Mais depuis que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair, tout enfant de Dieu, a le privilège de pouvoir recevoir lui-même la direction divine. Chacun peut chercher et trouver la pensée de Dieu, quel que soit le problème posé. Cela n'empêche pas le Seigneur de nous parler parfois par le canal prophétique, s'il juge bon de le faire. Mais la prophétie ne doit jamais être considérée comme étant suffisante. En elle-même, pour apporter une directive personnelle décisive, ce serait contraire à la volonté de Dieu. Comme moyen de confirmation, la parole prophétique peut être une aide remarquable quand certaines décisions sont à prendre. La prophétie doit toujours être une confirmation de ce que le Seigneur a déjà révélé à la personne concernée, lui apportant ainsi une plus grande paix et une plus grande assurance intérieure. Quiconque refuse de respecter cette loi spirituelle aura à le regretter tôt ou tard. La nécessité de contrôler le don de prophétie est prouvée par le fait qu'il peut provenir de 3 sources d'inspiration différentes. Le Saint-Esprit. 2 Samuel 23, de l'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Jérémie 1, 9, puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche ». Acte 19, 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Acte 21, 11 et 20 nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Les mauvais esprits. 1 Rois 13, 17-19, « Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit « Moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit « Ramène-la avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. 1 Rois 22, 22 L'Éternel lui dit comment ?« Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors, et fais ainsi. » Matthieu 8, 29 « Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Acte 16, 17 et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » L'âme de l'homme. Jérémie 23, 16 Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Néhémie 6, 12-14 Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de nos Odia, la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Ézéchiel 13, 2-3 fils de l'homme prophétisent contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Nous ferons donc bien d'accepter l'exhortation que Paul adresse aux chrétiens de Thessalonique. 1 Thessaloniciens 5, 20-21, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Malgré les dangers possibles attachés à l'exercice de ce don, ne sous-estimons pas son influence bénéfique, voire 1 Corinthiens 14, 1,5-39. Recherchons donc ardemment ce charisme pour nous-mêmes, afin que nos frères soient édifiés selon le bon plaisir de Dieu, encouragés, enseignés et affermis dans la foi. Il est sage de donner à présent quelques conseils pratiques à celui qui donne une prophétie, à celui qui écoute la parole prophétique. Conseils pratiques au porteur du don de prophétie. Exercez exclusivement votre don à l'intérieur de l'Église et au moins en présence d'un ancien qui puisse prendre la responsabilité de la prophétie apportée à Thessaloniciens 5, 20-21. 2. Ne prophétisez que si tout est en ordre entre Dieu et vous et entre vous-même et votre prochain. Sinon le Saint-Esprit en sera attristé et cela empêchera aussi les autres d'avoir confiance en vous. Éphésiens 4, 30, Romains 12, 18. 3. Souvenez-vous que la prédiction d'un événement futur est réservée uniquement au prophète 1 Corinthiens 14, 3. 4. Gardez entièrement le contrôle de votre corps. Sinon, vous attirerez l'attention sur vous-même et non sur la prophétie. 5. Rappelez-vous que tout fruit a besoin d'un certain temps pour mûrir. Il en est de même pour le message prophétique. Ce temps de maturation doit se faire dans la prière. Attendez le moment le plus favorable pour apporter votre prophétie, afin qu'elle ait le maximum d'effet. Rappelez-vous que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'est-à-dire que celui qui prophétise doit maîtriser l'esprit de prophétie qui est en lui 1 Corinthiens 14, 32. 7. Consacrer beaucoup de temps à l'étude de la Bible, car le Saint-Esprit puisera toujours dans la connaissance que vous en aurez acquise. 2 Timothée 2, 15. 8. Ne mélangez pas le parler en langue, la parole prophétique et la prière. L'idéal est de commencer à prophétiser en disant « Avec autorité, ainsi dit le Seigneur ». 9. C'est dans la mesure où vous mènerez une vie réellement sanctifiée que votre message sera pleinement reçu et accepté par l'Assemblée. Matthieu 5, 16. 10. Rappelez-vous que votre prophétie doit correspondre en tout point avec la révélation de l'Écriture. Votre message sera toujours dépendant de la mesure de votre foi. Romains 12, 6. 11. Reconnaissez votre besoin d'être dirigé et enseigné par le pasteur ou l'ancien dans l'exercice de votre don. C'est ainsi qu'il pourra devenir de plus en plus utile aux autres. 1 Timothée 4, 14-15. 12. Il est absolument nécessaire de discerner clairement entre vos propres pensées et l'inspiration de l'Esprit. L'apôtre Paul était lui-même assez humble pour le faire. 1 Corinthiens 7, 12. 13. Ce charisme ne vous est pas donné pour votre propre gloire ou votre propre satisfaction, mais pour le bien de tous. 14. Rappelez-vous qu'un jour vous devrez rendre compte de la fidélité avec laquelle vous aurez exercé votre don, c'est pourquoi ne le négligez pas. 1 Timothée 4, 14, 2 Timothée 1, 6. 15. Dans une réunion, il se peut qu'il y ait trop ou pas assez de messages prophétiques. C'est pourquoi demandez-vous toujours si c'est vraiment le moment choisi par Dieu pour délivrer le fardeau de votre cœur. 1 Corinthiens 14, 29-33. Conseil pratique à l'auditeur d'une prophétie. 1. Contrôlez toute prophétie à la lumière de l'Écriture. Mais ne prenez votre esprit critique pour du discernement. 1 Corinthiens 14, 29. 2. Rappelez-vous que toute prophétie est imparfaite. 1 Corinthiens 13, 9. Elle ne peut donc pas remplacer la parole de Dieu qui seule est valablement inspirée. 3. Ne vous appuyez jamais uniquement sur une prophétie pour prendre une décision. Mais réjouissez-vous si le Seigneur confirme votre conviction personnelle par un message prophétique. 4. Si vous vous trouvez devant une décision importante, sans savoir quelle voie choisir, recherchez la pensée du Seigneur dans la prière et non une direction auprès de ceux qui ont un don de prophétie. 5. Si vous vous posez des questions au sujet d'une prophétie donnée, n'exprimez pas vos doutes devant les autres chrétiens, mais allez plutôt en parler à votre pasteur ou à un ancien. Dans ce domaine, eux seuls sont à même de discerner de façon juste. 6. Ne mettez jamais vous-même en doute l'authenticité d'un don. C'est uniquement au pasteur que revient la responsabilité de juger dans un tel cas. 7. Rappelez-vous toujours que dans toute prophétie inspirée, c'est Dieu qui parle et non le porteur du don. 8. Si vous ne pouvez accepter un certain passage de la prophétie, remettez-le spirituellement au Seigneur. Un jour, peut-être vous le comprendrez. Jérémie 28, 9. 9. Gardez la parole prophétique dans votre cœur et méditez-la comme le faisait jadis Marie. Luc 2, 19. 10. Priez fidèlement pour ceux qui ont le don de prophétie, afin que Dieu puisse parler au travers d'eux comme il le désirait. 11. Ayez de la patience envers ceux qui sont débutants dans ce domaine. 12. Demandez au Seigneur qu'il vous accorde aussi ce don pour l'édification, l'exhortation et la consolation de tous. 1 Corinthiens 14, 3. 13. Croyez qu'il est capable de protéger de tout mal à la fois le don et celui qui l'exerce. 14. Si vous êtes ancien, il est essentiel que vous repreniez certaines parties de la prophétie pour les expliquer davantage et les commenter selon le besoin. 15. Ne surestimez jamais la prophétie aux dépens de la sainte parole de Dieu. Le don d'interprétation des langues. Définition. Nous n'entendons pas forcément par là la traduction littérale du message en langue. L'interprétation peut au contraire être tout à fait libre et correspondre à l'esprit plutôt qu'à la lettre du message donné. L'interprète pourra dire par exemple « Voici, je viens bientôt ». Tenez-vous prêt. Ou bien « Le Seigneur dit qu'il vient bientôt et il veut que vous soyez prêts » ou encore « Le Seigneur vient bientôt ». C'est pourquoi tenez-vous prêt. Il faut bien tenir compte d'une telle liberté d'interprétation. Cet exemple nous amène à conclure que l'exercice de ce don n'a rien à voir avec une traduction servile. Au contraire, le Saint-Esprit se plaît à utiliser le vocabulaire de l'interprète. Mais c'est aussi dans la mesure où celui-ci s'est entré dans le courant de l'Esprit que l'interprétation gagne en richesse et en profondeur. Et là encore, la maturité spirituelle et la mesure de foi manifestée par le porteur du don ont une très grande importance. Utilité de ce don. Comme la prophétie, ce charisme est d'origine surnaturelle, il a donc une importance vitale pour le perfectionnement des saints. À côté du véritable don d'interprétation, l'Ancien Testament mentionne un certain ministère d'interprète rempli par Joseph. Genèse 40, 8, ils lui répondirent « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Daniel, qui donna le sens précis des mots apparus sur la muraille à l'époque de Belshazzar. Daniel 5, 16, « J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture, et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel 5, 26-28, et voici l'explication de ces mots. Comptez Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Seuls des serviteurs de Dieu remplis de l'Esprit ont pu et peuvent encore donner l'interprétation réelle de ces mystérieuses manifestations divines. Au sujet de l'exercice de ce don, 1 Corinthiens 14, 27-28, recommande expressément que deux ou trois ou plus parlent en langue, et seulement si le message peut être interprété. Cet ordre divin doit être respecté si nous voulons rester fidèles à l'Écriture. Une question cependant reste posée. Désirons-nous retrouver les richesses spirituelles des temps apostoliques? Si tel est le cas, recherchons, recevons et exerçons les dons spirituels dans nos réunions avec une vision nouvelle et une compréhension enrichie et approfondie. Suivons donc avec joie ces recommandations de Paul 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification.